France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans beaucoup de villes de France, des rues, des avenues portent son nom. Mais à Paris, il n'y a pas même une impasse Maximilien de Robespierre. À la périphérie, dans ce qui fut la banlieue rouge, des rues portent le nom de l'incorruptible, une station de métro aussi, de la ligne 9 à Montreuil. Robespierre n'est toujours pas en odeur de sainteté, en tout cas pas suffisamment pour que son nom soit associé à celui de notre capitale. En 1989, on célébrait le bicentenaire de la Révolution et l'émission « Les îles de France » arpentait les rues du Paris révolutionnaire. Dans le quatrième volet de cette série, Simone Dweck s'arrêtait au numéro 398 de la rue Saint-Honoré. Au temps de la Révolution, c'était le domicile de Simon Duplé, le menuisier qui hébergea chez lui Robespierre de 1791 à 94. En compagnie de l'historien Claude Mazoric, cette visite est l'occasion de porter un éclairage nuancé sur la personnalité, la pensée et l'action politique de celui qui fut peut-être le bouc émissaire de la Révolution française et de la Terreur. En compagnie aussi du comédien Jean Negroni, qui incarna plusieurs fois Robespierre, notamment en 1964, à la télévision, dans La Terreur et la Vertu, un épisode de La Caméra explore le temps, qui fut à l'époque un véritable événement.
Les îles de France, bonjour. Suite et fin en ce mois de juillet 1989 de notre itinéraire révolutionnaire dans Paris. 1789, aux Tuileries se tenaient la Convention, le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale. 1989, nous sommes en direct des Tuileries, dans les Tours de la Liberté, pour évoquer la figure, enfin une des grandes figures révolutionnaires, celle de Robespierre, et ceci en faisant un petit détour par le 398 rue Saint-Honoré, où l'incorruptible louait une simple chambre au sans-culotte menuisier Duplé, où aujourd'hui encore, très certainement, son âme subsiste au restaurant Robespierre, portée avec passion par la patronne de ce lieu, Monique Delcroix, qui se fait très volontiers appeler Éléonore. C'est une inconditionnelle de Maximilien.
Je pense que c'est tout à fait normal et je trouve que c'est inadmissible qu'il n'y ait pas quelque chose, une rue ou une plaque ou quelque chose. Quand on ne voit pas ça, je suis entièrement d'accord.
Ah, c'est super, vous écoutez, ça c'est très bien.
Madame, vous adorez Robespierre apparemment. Vous adorez en tout cas vivre dans cet endroit.
C'est-à-dire, quand j'ai acheté ici, je ne savais pas du tout que Robespierre vivait là. Hein. Moi, quand j'ai acheté ici il y a 27 ans, j'avais appelé ça l'imprévu. Parce que c'était au fond d'une cour et tout. Et trois jours avant l'ouverture, j'ai un ami qui travaille avec Alain Decaux, qui était dans les journaux, la psychologie, et qui faisait des recherches. Pourquoi sur la Révolution à ce moment-là, pour lui chercher des documents. Et il m'appelle et il me dit, écoute, je crois que le restaurant que tu as acheté, c'est la maison de Robespierre. Le sais-tu? Moi, je lui dis absolument pas. Et à ce moment-là, il a quand même fait des recherches. Et là, il a découvert le plan de la maison, et que vraiment, le 398 et 400 étaient cette maison. Et j'ai donc changé de nom. Et nous avons décoré tout en bleu, blanc, rouge, en trois nuits, parce que là, maintenant, on est obligé de mettre des tissus rouges parce que c'est maintenant des tissus anti-feu, il faut se plier aux normes pour l'hygiène et tout. Mais avant, on a tout décoré en bleu, blanc, rouge et cherché des vieilles des gravures anciennes et tout décoré comme ça en trois jours. Et j'ai dit, effectivement, garder un lieu historique, il n'y en a pas tellement dans Paris, on va le conserver. Et je ne connaissais rien de Robespierre à l'époque. À l'école, vraiment, on apprend les révolutions en 3 pages. Hein. Vous apprenez Napoléon en 100 pages, mais vous apprenez la révolution en 3 pages. Et Robespierre, pour moi, c'était terreur. Hein. Il n'y a rien d'autre. On ne voit pas que le côté néfaste et la terreur et l'époque de la terreur. Il faut quand même concevoir les bonnes choses. Et je pense que je considère que c'est un être très intelligent et un être pur, foncièrement pur. Et quand on dit l'incorruptible, pour moi, incorruptible, c'est vrai. Et c'était un homme de transition. Il est un homme de transition. À un moment donné, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit et comment ça peut s'arrêter. Bon. Ça était peut-être plus loin qu'il ne désirait. Je pense que lui ne désirait pas ça lorsqu'il a commencé. C'était loin de là, puisqu'il était contre la guillotine, contre les peines de mort, contre tout ça. Bon, mais je pense que ça en est arrivé à un moment donné où il fallait transiger, il fallait être honnête et puis ne pas céder.
Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Le temps n'est point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément leur patrie. Les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits tant que la horde des fripons dominera.
Paris révolutionnaire, itinéraire numéro 4. Aujourd'hui, c'est donc le 398 rue Saint-Honoré, chez Robespierre, la maison de Robespierre, ou plus exactement la chambre que louait Robespierre au menuisien Duplay. Nous sommes en direct du studio des Tuileries, dans les Tours de la Liberté, et j'ai autour de moi deux invités. Le premier, c'est Claude Mazoric, historien, et le second, c'est Robespierre. Enfin, c'est Jean Negroni qui, pour nous, donne aujourd'hui sa voix à celle de Robespierre. Claude Mazoric, donc, on va parler de Robespierre tout au long de cette émission, on va l'évoquer dans cette maison du 398 rue Saint-Honoré. On va aussi, je crois, un petit peu rectifier les idées reçues qu'on a sur Robespierre. Et c'est un travail que vous avez fait tout simplement à travers ses écrits, qui sont volumineux.
Oui, il y a une légende noire anti-robespierriste. Et on a fait de Robespierre une sorte de bouc émissaire pour refuser ce qui a été décisif dans la Révolution française, c'est-à-dire ce moment particulier où la survie de la nation était en question et où il a fallu prendre des responsabilités dans l'organisation du salut public, ce qui a été le cas de Robespierre. Mais ensuite, on n'a plus besoin, en quelque sorte, d'assumer ces responsabilités. Robespierre est devenu la figure repoussante de la Révolution française contre toute équité, contre toute vérité et exactitude historique. Alors, pour faire connaître Robespierre, je me suis attelé après bien d'autres. Je ne suis que le dernier d'une vieille lignée, en quelque sorte. Je me suis attelé à le faire lire, à ce qu'on connaisse Robespierre à travers ses actes. Et ses actes, ce sont ses discours, c'est sa production littéraire, qui est
immense.
Parce
qu'on ne la connaissait pas, enfin, on n'y prêtait pas
tellement
attention.
Les œuvres de Robespierre, qui ne sont pas les œuvres complètes, occupent 10 gros volumes, in quarto, publiés par la Société des études robespierristes entre 1970 et 1967. Ces œuvres ont été certes exploitées, lues par les spécialistes, connues des historiens, mais on en a tiré quelques recueils légers et qui généralement ne reproduisent pas la totalité de la démarche de Robespierre depuis ses premières années d'avocat à Arras en 1782 jusqu'à sa mort en 1794.
Est-ce que c'est une œuvre littéraire ?
Considérable. C'est un des plus grands orateurs de la Révolution française, c'est une des plus belles plumes de la Révolution française. Et il manifeste une culture moderne en son temps tout à fait exceptionnelle, nourrie évidemment de Rousseau, mais aussi des philosophes, des économistes même. Je pense qu'il n'a pas eu de formation mathématique, bien qu'il ait été un ancien élève du Collège des Oratoriens, l'actuel lycée Louis le Grand, mais dans le Collège Louis le Grand, on enseignait assez peu les mathématiques. Mais sa culture moderne sur le plan philosophique, sur le plan des sciences sociales, des sciences humaines, est tout à fait considérable et cela se reflète dans ses œuvres. Alors, mon recueil de textes ne représente que 6% du total de l'œuvre écrite de Robespierre. Mais je crois qu'à travers cette lecture cursive, que j'aide par une annotation et par des indications qui illustrent le sens de sa démarche, je pense qu'on peut se faire une idée de la personne de Robespierre, du sens de son action, et je dirais, comme la propriétaire du restaurant Robespierre, de sa pureté. Car c'est cela, je crois, qui est le plus étonnant dans cet homme, à côté de son incorruptibilité, c'est la pureté de ses intentions, et on ne peut pas mettre au compte du cynisme la contradiction inévitable qu'il y a eu entre ce qu'il voulait faire et ce qu'est devenu la Révolution française dans cet affrontement gigantesque qui oppose la France à la République, à toute l'Europe en 1793-94.
Jean Negroni, c'est à travers votre voix qu'on va entendre effectivement cette œuvre littéraire ou ces discours de Robespierre. Jean Negroni, vous n'en êtes pas à votre premier Robespierre. Combien de Robespierre avez-vous déjà joué ou interprété ?
Une certaine quantité, je ne pourrais pas vous le dire exactement. J'ai commencé par le Robespierre de Stelio Lorenzi dans La Caméra Explore le Temps, il y a 25 ans, qui a été une émission qui a transformé la situation. Robespierre était, comme nous le disons maintenant et comme on le pense encore, haï de la plupart des écoliers français, mais en cela, ils avaient été guidés dans ce choix de la haine. Et Stelio Lorenzi a entrepris de le réhabiliter. Et c'est la première grande réhabilitation publique. Et elle a été singulière, elle a été énorme. J'ai eu des professeurs de français ou d'histoire qui sont venus me dire « Monsieur, vous avez détruit en une demi-heure ou en trois heures ce que j'avais mis 10 ans à apprendre à mes élèves. » Donc il y avait quelque chose qui avait été fait, un pas qui avait été fait moi-même. J'ai donc approfondi le personnage en lisant beaucoup de textes qui le concernaient. Et je me suis aussi moi-même fait une raison, car j'étais comme ceux qui m'avaient écouté, j'étais de ceux qui pensaient que Robespierre n'était qu'un homme de la terreur, mais n'était pas un constructeur, n'était pas un homme d'avenir, n'était pas un grand politique, n'était pas un grand chef d'État. Et je pense que maintenant, enfin, je sais que Robespierre est autre chose que ce qu'on a l'habitude d'en penser.
Et c'est pour vous un personnage attirant à jouer ?
Oui, bien sûr, c'est toujours un personnage. D'abord, c'est un grand personnage de la Révolution. Il est fascinant par son caractère, par son autorité, par son incorruptibilité, mais aussi, il est aussi fascinant par une espèce de tendresse humaine refoulée, comme quelque chose qu'il porte à donner aux hommes. Il y a comme une démarche de sainteté, et c'est peut-être en ça qu'on peut expliquer en quoi Robespierre a pu perdre pied. C'est que tout d'un coup, il s'est balancé très fort dans une prospective et il a tout donné, y compris sa fragilité physique. Robespierre était très malade à la fin de sa vie. Il a un peu perdu, comme disait Claude Mazoric, un peu perdu les pédales à un moment donné, au moment des lois de Prairial. Mais je crois que c'était toujours pour sauver l'homme.
Et le dernier Robespierre que vous ayez joué, eh bien c'est ce Robespierre silencieux au milieu des danseurs dans le ballet de Béjart.
Avec Béjart, en passant par celui de Robert Hossein avant, et celui de Béjart, en effet.
Vous permettez d'ajouter quelque chose ? Pour les historiens, l'interprétation que Jean Negroni nous a donnée depuis 25 ans de la figure de Robespierre est tout à fait extraordinaire, parce que peut-être est-ce lié à une similitude de morphologie, de taille, peut-être un regard, mais nous ne pouvons plus imaginer Robespierre à travers d'autres traits que ceux de Jean Negroni lui-même. Et nous lui en sommes très reconnaissants.
Alors on va aller donc chez Robespierre, puisqu'on peut toujours y aller aujourd'hui, au 398 rue Saint-Honoré. Et nous y étions ce jour-là en compagnie de Jean-Pierre Mouisseau, qui est historien à la Caisse des Monuments Historiques.
La maison dans laquelle Robespierre est venu s'installer en juillet 1791 était finalement une petite maison avec cour, très parisienne, construite de moellons et de plâtre, couverte de tuiles, qui abritait la famille d'un menuisier, d'un entrepreneur en menuiserie, qu'il a recueilli là le 17 juillet 1791, au moment où la loi martiale avait été décrétée par Bailly et Lafayette, où, vous savez, il y a eu le massacre d'une partie des personnes qui sont allées réclamer la déchéance du roi au Champ de Mars. Et Robespierre, comme beaucoup de députés engagés, ne rentrait pas chez lui ce soir-là. Remarqué dans la rue par la foule qui l'acclamait, Duplay, sur le pas de sa porte rue du Saint-Honoré, lui a offert l'hospitalité pour quelques instants. Robespierre s'est reposé, a dîné, puis est resté couché. Et de là a décidé de venir s'installer chez cette famille, abandonnant son logement qui était beaucoup plus éloigné de l'Assemblée nationale, qui se trouvait rue de Saint-Onge, près du temple actuel. On connaît la description de la maison au moment où Duplay l'occupe par le bail de location qui est ainsi rédigé. La maison consiste en un petit corps de logis sur la rue Saint-Honoré, simple en profondeur, avec entrée de porte cochère et une boutique au rez-de-chaussée. Quatre croisées de face au premier étage, avec grenier au-dessus et comble à deux égouts recouverts en tuiles, plus un autre corps de logis en retour en aile au couchant, élevé aussi d'un étage, qui n'est couvert que par un comble en appentis garni en tuiles. Plus, à la suite du dit bâtiment, est un autre corps de logis, formant pignon sur la cour, élevé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et grenier au-dessus avec comble couvert aussi en tuiles. La dite cour, comprise entre ces trois bâtiments, renfermant un hangar de chaque côté, dont un grand au couchant avec comble en appentis.
Aujourd'hui, alors nous sommes assis dans cette petite cour. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a changé depuis la Révolution ?
Le volume de la cour n'a pas changé, l'emplacement des murs est toujours là, certaines fenêtres, y compris la fenêtre historique même de la chambre de Robespierre, n'a pas changé. Bien sûr, ce qui a changé, c'est l'élévation des bâtiments, puisque la petite maison à un étage sur la rue Saint-Honoré a disparu, était remplacée par un immeuble au XIXe siècle, et que la partie du logis où vivaient Robespierre et la famille Duplay a été évidemment agrandie avec de nombreux étages qui ont été ajoutés, ce qui fait que cette petite cour semble aujourd'hui moins lumineuse qu'elle ne l'était probablement à l'époque. Et ce qui manque aussi, ce sont les deux hangars, car il y avait deux hangars de part et d'autre, puisque le maître de maison était entrepreneur de menuiserie, Duplay, et qu'il avait là des stocks de bois et qu'il avait un atelier.
Vous avez sous les yeux un plan, justement, de cette maison, enfin de cette cour, à l'époque, hein, vers 1790.
Oui. Alors, cette maison était une maison qui avait été louée à un couvent par Duplay au moment de la Révolution. La famille, donc, occupée avec les filles et les enfants, cette maison qui était... Au fond de la cour, un logis comportant une salle à manger, une cuisine, un salon au milieu et tout au fond, sans jour, une chambre pour les enfants et un petit jardin, tout petit jardin. Et puis sur le côté gauche de la cour, un escalier qui existe toujours, qui montait à un étage avec plusieurs chambres où étaient logés les fils Duplay et également où Robespierre a été installé. Ça n'a pratiquement pas changé à l'extérieur, évidemment, l'intérieur a été réaménagé. Et dans la cour, il y avait, outre les hangars, une petite fontaine, et à partir probablement de 1793, le menuisier Duplay, craignant qu'on importune Robespierre et même craignant un attentat, n'oublions pas que l'assassinat de Marat par Charlotte Corday s'est fait ainsi très facilement, il y a probablement une tentative par une jeune fille qui s'appelle Cécile Renaud, d'ailleurs, a transformé l'escalier, a créé une autre porte qui obligeait pour entrer chez Robespierre de passer par l'atelier ou par la salle à manger. Donc, qui garantissait une certaine sécurité à la pièce unique qu'occupait Robespierre, car il n'avait pas ici un appartement, mais une simple chambre.
C'est cette porte-là qu'on voit là ?
Oui, c'est l'emplacement de cette porte. L'escalier, lui, en bois que Duplay avait construit n'existe plus. Il a été démonté et d'ailleurs, il se trouve, je crois, dans une maison... de la banlieue parisienne, mais la porte existe toujours et au-dessus, on peut voir la fenêtre de l'escalier et également la première et la seconde fenêtre de la chambre de Robespierre.
C'est tout petit, hein, toute
C'était
petite fenêtre.
C'était une pièce qui n'était pas grande, en effet, très meublée très sommairement, d'un grand lit de noyer. On sait que le lit était recouvert d'un dessus de lit fait avec une robe de Madame Duplay, bleue et blanche, qu'il y avait bien sûr, Robespierre était un politicien, un intellectuel. Il y avait évidemment des livres sur des étagères assez sobres. On sait qu'il y avait quelques chaises, une table pour qu'il écrive, pour qu'il prépare ses papiers, puis probablement un certain nombre de cartons dans lesquels il entreposait ses manuscrits, ses projets de discours, les rapports. Lorsque devenu pratiquement un des chefs du gouvernement révolutionnaire, il eut beaucoup de rapports de police, de notes, etc. Mais on est quand même rêveur de voir que un des hommes qui a eu la responsabilité d'un des plus grands pays du temps au moment de la Révolution et d'un régime en pleine guerre civile, en pleine révolution, et travailler finalement dans une si petite surface sans une équipe de secrétaires, de collaborateurs. C'était un travail intense et on comprend pourquoi cet homme jeune, qui n'avait pas 40 ans quand il est mort, était totalement épuisé et qu'au moment de sa chute en Thermidor, depuis plusieurs semaines, il était à bout véritablement d'énergie et il se laissait aller.
Oui, il y a un côté très monastique.
Oui, on a beaucoup insisté dans le culte robespierriste, bien sûr, sur cette dimension simple, modeste, spartiate de cette vie avec une famille d'artisans aisés de Paris, mais très simple, très républicain, de mœurs tout à fait austères. Il est évident peut-être que Robespierre a dû trouver ici une sorte d'équilibre. Lui qui n'avait pas véritablement de famille, qui a perdu très tôt sa mère, très tôt son père, il a trouvé là un équilibre d'une famille qui s'occupait de lui, qui lui apportait toutes les solutions matérielles. Et donc Duplay a véritablement mis tous ses moyens de familiaux à la disposition de Robespierre et de son frère, puisqu'à la fin, le frère Augustin, le jeune frère de Robespierre, qui était également député, est venu s'installer ici et habiter la maison.
C'est à vous que je dédie cet écrit, manne du citoyen de Genève. Que s'il est appelé à voir le jour, il se place sous l'égide du plus éloquent et du plus vertueux des hommes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'éloquence et de vertu. Homme divin, tu m'as appris à me connaître. Bien jeune, tu m'as fait apprécier la dignité de ma nature et réfléchir aux grands principes de l'ordre social. Le vieil édifice s'est écroulé, le portique d'un édifice nouveau s'est élevé sur ses décombres, et grâce à toi, j'y ai apporté ma pierre. Reçois donc mon hommage, tout faible qu'il est, il doit te plaire, je n'ai jamais encensé les vivants. Je t'ai vu dans tes derniers jours, et ce souvenir est pour moi la source d'une joie orgueilleuse. J'ai contemplé tes traits augustes. J'y ai vu l'empreinte des noirs chagrins auxquels t'avaient condamné les injustices des hommes. Dès lors, j'ai compris toutes les peines d'une noble vie qui se dévoue au culte de la vérité. Elles ne m'ont pas effrayé. La conscience d'avoir voulu le bien de ses semblables est le salaire de l'homme vertueux. Vient ensuite la reconnaissance des peuples qui environnent sa mémoire des honneurs que lui ont dénié ses contemporains. Comme toi, je voudrais acheter ces biens au prix d'une vie laborieuse, au prix même d'un trépas prématuré. Appelé à jouer un rôle au milieu des plus grands événements qui aient jamais agité le monde, assistant à l'agonie du despotisme et au réveil de la véritable souveraineté, près de voir éclater des orages amoncelés de toutes parts et dont nulle intelligence humaine ne peut deviner les résultats, je me dois à moi-même, je devrais bientôt à mes concitoyens compte de mes pensées et de mes actes. Ton exemple est là, devant mes yeux. Tes admirables confessions, cette émanation franche et hardie de l'âme la plus pure, iront à la postérité moins comme un modèle d'art que comme un prodige de vertu. Je veux suivre ta trace vénérée. Dussé-je ne laisser qu'un nom dont les siècles à venir ne s'informeront pas, heureux si dans la périlleuse carrière qu'une révolution inouïe vient d'ouvrir devant nous, je reste constamment fidèle aux inspirations que j'ai puisées dans tes écrits.
Thank you.
Claude Mazouric, bien sûr, cet homme dont parlait à l'instant Robespierre, c'est Rousseau, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est un petit peu son modèle en fait.
Oui, Rousseau occupe une place tout à fait considérable dans la formation intellectuelle, morale, esthétique de Maximilien Robespierre. Non seul, on oublie trop souvent à quel point toute la formation juridique et politique de Robespierre, tout ce qu'elle doit à Montesquieu et à d'autres. Mais Rousseau, c'est évidemment l'inspirateur décisif de son radicalisme politique, de son démocratisme, et surtout de cette constante subordination du choix politique au devoir moral, à la réflexion, au retour sur soi-même et au jugement, je dirais, subjectif que l'on porte sur ce que doit être son devoir. Et voyez, le texte qu'a lu Jean Desgreniers est tout à fait admirable. C'est le premier texte public de Robespierre. Il vient d'être élu contre l'opinion des conservateurs. Il vient d'être élu député aux États généraux de 1789. Grâce au soutien des savetiers et des cordonniers d'occasion d'Arras, de la plus petite et la plus médiocre et la plus pauvre des corporations. Et le premier geste, la première idée qui lui vient à l'esprit n'est pas tant de remercier ses électeurs que de se dévouer entièrement au modèle d'homme dont Rousseau a dessiné le portrait, à la fois dans l'Émile, dans le Contrat social, dans la Nouvelle Héloïse. Et il lui dit: maintenant que je deviens un homme dévoué à mes concitoyens, nous entrons dans une révolution, c'est extraordinaire, nous sommes en avril 89, eh bien, il décide de dévouer toute sa personne à, je dirais, l'imitation du modèle de héros tel que, par anticipation, Rousseau a pu le définir.
Et est-ce que cette philosophie correspond à son moi? Parce que vous avez fait toute une analyse, là, du moi de Robespierre.
Voilà, du moi, je me suis essayé à une perception de la manière dont Robespierre s'est formé lui-même, car c'est une situation tout à fait extraordinaire qu'a connue Robespierre dans sa jeunesse. Sa mère est morte à la naissance de sa deuxième sœur, et immédiatement son père, comme il était fréquent au XVIIIe siècle, pris de panique devant les responsabilités qu'exigeait l'éducation de trois enfants vivants, a disparu. Il est mort en 1777, loin de sa famille. Et Robespierre s'est trouvé très jeune être le père ou le pseudo-père de son jeune frère Augustin et de sa sœur Charlotte. Et à trois, ils ont constitué une espèce de cellule familiale, suppléant aux carences paternelles. Et alors Robespierre s'est construit tout un monde d'autorité où le rôle du père était tenu essentiellement par les philosophes. L'éducation relativement sévère, très organisée, qu'il a subie dans les collèges d'oratoriens où il a fait ses études grâce à une bourse de l'abbaye de Saint-Va, n'a fait que renforcer cette tendance en quelque sorte à s'identifier à des modèles rhétoriques comme à des modèles vivants. Alors l'espèce de triangle constitué par Maximilien, Augustin et Charlotte a fonctionné jusqu'à sa dissolution de manière critique d'ailleurs en 1792, lorsque Charlotte étant venue d'Arras à Paris, Maximilien a refusé de quitter la maison des Duplet pour revivre avec elle et pour reconstituer cette espèce de cellule plus ou moins laborieuse dans un premier temps, heureuse ensuite, qu'ils avaient constituée ensemble à Arras. Rousseau, incontestablement, la figure de Rousseau occupe la place du père dans la formation oedipienne de Maximilien.
Et est-ce que cette morale propre, intime qu'il a, va rejaillir alors sur l'homme politique qui
bien
sera?
Entendu, bien entendu. D'ailleurs, je dis dans mon ouvrage que Robespierre est au débouché d'une longue lignée de penseurs de la politique et de la morale qui s'inscrivent dans ce que j'appellerais le classicisme français. À travers Rousseau, nous retrouvons du Calvin, mais à travers la formation dans les collèges d'oratoriens, nous retrouvons toute une tradition, celle de l'oratoire, mais peut-être aussi celle du jansénisme. Il y a dans Robespierre, il y a du religieux. Et ce religieux, c'est une religion de l'austérité, c'est une religion de la morale, c'est une religion de l'intériorisation permanente de la responsabilité devant l'acte.
Quel est le premier objet de la société? c'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits ? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. C'est pour vivre d'abord que l'on a des propriétés. Il n'est pas vrai que la propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic, c'est un brigandage et un fratricide. D'après ce principe, quel est le problème à résoudre en matière de législation sur les subsistances ? Le voici. Assurer à tous les membres de la société la jouissance de la portion des fruits de la terre qui est nécessaire à leur existence. Aux propriétaires ou aux cultivateurs, le prix de leur industrie et livrer le superflu à la liberté du commerce. Posons donc de bonne foi les principes du droit de propriété. Il le faut d'autant plus qu'il n'en est point que les préjugés et les vices des hommes aient cherché à envelopper de nuages plus épais. Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété. Il vous dira en vous montrant cette longue bière qu'il appelle un navire, où il a encaissé et ferré des hommes qui paraissent vivants, « Voilà mes propriétés, je les ai achetées tant par tête. » Interrogez ce gentilhomme qui a des terres et des vassaux, ou qui croit l'univers bouleversé depuis qu'il n'en a plus. Il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables. Interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne. Ils vous diront que la plus sacrée de toutes les propriétés est sans contredit le droit héréditaire dont ils ont joui de toute antiquité d'opprimer, d'avilir et de pressurer légalement et monarchiquement les 25 millions d'hommes qui habitaient le territoire de la France sous leur bon plaisir. Aux yeux de tous ces gens-là, la propriété ne porte sur aucun principe de morale. Elle exclut toutes les notions du juste et de l'injuste. Je vous propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes. Article 1. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. Article 2. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui.
Claude Mazoric, les grands principes de Robespierre, c'est un petit peu tout un programme en fait qu'il cherche à établir, qu'il cherche à faire gagner.
C'est un programme, c'est en même temps une trajectoire. Robespierre commence la Révolution française, comme Sieyès et comme beaucoup d'autres, avec une grande idée, une grande revendication, instituer dans l'ordre social les droits naturels imprescriptibles de l'homme, sous la forme essentiellement de droits civils. Et on a même dit, Camille Desmoulins dit, Robespierre était le commentaire vivant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Mais égalité des droits civils entre les hommes et les femmes, entre tous les hommes, est-ce que cette égalité est possible si les hommes ne sont simplement que soumis à la loi, sont simplement passivement dépendants de la loi votée par d'autres, élaborée par d'autres? Il faut donc, pour que l'égalité des droits civils soit réelle, qu'elle soit en même temps possibilité de droits politiques égaux. Aussi Robespierre va-t-il aller de l'égalité des droits civils à l'exigence de l'égalité des droits politiques, c'est-à-dire à la démocratie politique. Et puis, au tournant de 1791-1792, il en vient à faire ce constat tout à fait fondamental, mais pour un homme dont l'horizon est borné au jour la journée, qui ne peut pas vivre parce qu'il est agressé par la misère, par l'inculture, la pauvreté, l'ignorance, n'est-il pas nécessaire de lui donner les moyens de sa dignité civique ? Il faut donc aller beaucoup plus loin, et avec cette grande exigence du droit à l'existence, Robespierre ouvre la voie à l'idée d'une politique sociale. Ainsi est-on passé de l'égalité des droits civils à la démocratie politique et de la démocratie politique à la démocratie sociale.
Et la politique...
Cette démarche, c'est la démarche fondatrice de Robespierre et qui lui ouvre d'un seul coup un formidable crédit dans les couches populaires.
Mais est-ce qu'il est le premier à parler de politique sociale ?
sous cette expression précise, non, mais il en est incontestablement l'inventeur, avec d'autres à la même époque. Mais personne n'a donné à cette trajectoire idéologique et politique une telle cohérence et une telle capacité de rassemblement et d'entraînement.
Et en quoi consiste donc ce rapprochement donc, du social pour lui ?
Alors pour lui, il s'agit, comme le texte qu'a lu Jean Negroni nous le montre, il s'agit d'abord de garantir ce qu'on appellerait le minimum vital, le droit à l'existence. Le droit à l'existence qui n'est pas simplement qu'un droit à consommer du pain et de l'eau, à survivre, mais qui est un droit à l'instruction, qui est un droit à l'exercice des droits politiques, c'est-à-dire à la capacité de se hisser au-dessus de la suffisance pour prendre en charge les intérêts communs, le bonheur de tous, bref, pour atteindre la vie morale. Car la vie morale ne commence que dès lors que la vie matérielle est assurée. Il y a chez Robespierre une très haute idée de l'homme et une très grande ambition politique pour la République à partir de 1792, c'est de créer cette société dans laquelle les hommes seront régénérés.
Vie matérielle et donc éducation indispensable.
Bien entendu.
Il a des grands projets d'éducation.
Voilà, il n'est pas le créateur des grands projets d'éducation comme Condorcet, comme Talleyrand avant Condorcet et comme Le Pelletier de Saint-Fargeau. Mais c'est lui qui a donné, en complément critique au projet de Condorcet, qui a donné lecture du fameux projet de Le Pelletier de Saint-Fargeau, assassiné au lendemain de l'exécution de Louis XVI, et qui comportait des choses étonnamment modernes à côté d'archaïsmes spartiates tels que l'obligation de l'éducation physique, et surtout l'idée d'une école qui serait égalitaire dans son projet, puisqu'elle avait pour but d'assurer l'égalité entre les jeunes, mais qui serait inégalitaire dans son fonctionnement, parce que si l'école est égalitaire dans sa structure, elle reproduit les inégalités de la société. Il y a là une piste extraordinairement moderne et dont on retrouvera les cheminements à la fin du XIXe siècle, et puis plus généralement 1944-45 avec le plan Langevin-Wallon, par exemple.
Et puis il y a aussi un thème alors qui peut être aussi aujourd'hui très contemporain, c'est celui des colonies et des hommes de couleur.
L'intérêt suprême de la nation et des colonies est que vous demeuriez libre et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de la liberté. Périssent les colonies s'il doit vous en coûter votre bonheur, votre gloire, votre liberté. Je le répète, périssent les colonies si les colons veulent par les menaces nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts. Je déclare au nom de l'Assemblée, au nom de ceux des membres de cette Assemblée qui ne veulent pas renverser la Constitution, je déclare au nom de la nation entière qui veut être libre que nous ne sacrifierons pas aux députés des colonies qui n'ont pas défendu leurs commettants comme M. Monneron. Je déclare, dis-je, que nous ne leur sacrifierons ni la nation, ni les colonies, ni l'humanité entière. Je conclus et je dis que tout autre parti, quel qu'il soit, est préférable.
De très grandes idées, très généreuses, mais alors Claude Mazoric, comment expliquer la bête noire, enfin la terreur, comment expliquer justement cette contradiction apparente chez Robespierre ?
Oui, le texte que je viens de lire est un texte de 1791 qui portait sur le droit politique des hommes de couleur libres, qui avaient des droits civils, mais auxquels on n'avait pas reconnu l'égalité des droits politiques. Le texte est donc limité dans son objet, mais les conclusions vont évidemment très loin, puisqu'il a ce beau célèbre « périssent les colonies », plutôt que le principe, plutôt que la démocratie politique. Bien, je ne m'attarderai pas plus sur cette question, elle mériterait beaucoup de commentaires. À la question précise que vous me posez, comment est-on passé de ces grandes idées généreuses à la terreur ? Mais tout simplement à travers l'histoire concrète de la Révolution française, c'est-à-dire que la France révolutionnaire s'est trouvée engagée dans un formidable conflit, le plus grand conflit qu'on ait connu dans les États, dans l'époque moderne, et sans doute depuis les débuts de l'histoire des États eux-mêmes. Et donc, il a fallu à la fois résister au risque de démembrement intérieur, de régression antirévolutionnaire et d'agression militaire extérieure contre toute l'Europe coalisée. Dès lors, la question décisive qui est posée n'est plus celle de la gestion des intérêts légitimes particuliers et de l'organisation de la volonté générale dans une paix universelle, mais elle est la question du salut public, comme on l'a dit. Et cette question du salut public, Robespierre l'a posée dès 1789. Donc c'est par rapport à ces exigences nouvelles, nées de la guerre, nées de l'affrontement, nées du risque de décomposition de la nation française, de la patrie, car le mot dès lors prend cette signification d'être à la fois le pays plus la révolution, c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'évolution politique de Robespierre vers la terreur.
Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République. Celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La Révolution est la guerre de la liberté contre ses ennemis. La Constitution est le régime de la liberté victorieuse et paisible. Le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire précisément parce qu'il est en guerre. Il est soumis à des règles moins uniformes et moins rigoureuses parce que les circonstances où il se trouve sont orageuses et mobiles et surtout parce qu'il est forcé à déployer sans cesse des ressources nouvelles et rapides pour des dangers nouveaux et pressants. Le gouvernement constitutionnel s'occupe principalement de la liberté civile et le gouvernement révolutionnaire de la liberté publique. Sous le régime constitutionnel, il suffit presque de protéger les individus contre l'abus de la puissance publique. Sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre toutes les factions qui l'attaquent. Le gouvernement révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale. Il ne doit aux ennemis du peuple que la mort.
Robespierre, l'homme politique, privilégie la raison d'État quand même.
Le salut public, qui n'est pas la raison d'État, c'est-à-dire la survie de la communauté, et non pas, comme le pensait Richelieu, bon lecteur de Machiavel, l'intérêt de l'organisme qui est représentatif de la communauté. C'est, le salut public, c'est d'abord la survie de la communauté dans son acte refondateur, tel que la République a permis de le constituer. Robespierre a vu dès le départ et dès le début de la Révolution les risques qu'il y avait de guerre civile et d'affrontements. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le 30 mai 1791, il avait proposé à l'Assemblée constituante l'abolition de la peine de mort sous les rires et les huées de l'immense majorité des députés, même de ceux qui ensuite en ont été victimes de leur vote.
Et comment peut-on proposer l'abolition de la peine de mort et...
Parce que précisément, entre les deux, entre ce qui s'est passé le 30 mai 1791 et ce qui se passe au moment du discours que nous a lu tout à l'heure Jean Negroni, qui est du 25 décembre 1793, il s'est passé la contre-révolution, l'insurrection de la Vendée, la guerre contre toute l'Europe, le fédéralisme, le risque de démembrement de la nation. Dès lors, comme le dit lui-même Robespierre, les circonstances, je sais bien qu'on discute beaucoup de cette théorie des circonstances, les circonstances créent comme premier devoir à la fois de garantir le droit à l'existence et d'autre part le salut public. Donc c'est cette trajectoire qu'il faut comprendre comme un reflet intériorisé, assumé dans une politique, dans une stratégie politique du mouvement même de la Révolution française comme acte fondateur de la modernité. Et les choses sont passées par cette voie, qui est sans doute la seule voie que Robespierre voulait exorciser dans les années 1790-1791. Il est le plus lucide. C'est le premier qui emploie l'expression « contre-révolution » à propos d'un mandement de l'évêque de Tréguier en 1789 qui condamnait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Robespierre a toujours pensé qu'il fallait, par des procédés politiques, empêcher qu'éclate, que se manifeste en quelque sorte, cette insurrection anti-révolutionnaire qui imposerait à la Révolution et à la République de se défendre par des moyens que lui-même d'ailleurs a toujours voulu régulariser, légaliser. J'ai dit quelquefois, Robespierre, c'est l'invention de la terreur légale comme compromis légaliste avec la nécessité de la violence révolutionnaire qui était la riposte des révolutionnaires à la contre-révolution violente telle qu'elle n'a cessé de se manifester depuis 1789.
Est-ce qu'on sent dans ces textes-là qu'il y a un clivage, une hésitation, un questionnement ?
Je le crois. Du moins, je le ressens. En particulier à partir du mois de décembre 1793, niveaux en deux, et jusque dans la période qui précède la chute de Maximilien et de l'incorruptible du comité de salut public, lorsque Robespierre s'abstient de se rendre au comité de salut public, tout en soutenant les initiatives qui sont prises dans ce retour sur lui-même, dans cette relecture de Rousseau à laquelle il s'est prêté, dans cette méditation profonde. Je pense qu'il a voulu échapper à la fatalité de l'enfermement dans la terreur par des mesures immédiates et rapides pour enfin connaître l'avènement du régime constitutionnel, c'est-à-dire de la République paisible. Mais c'était sans doute une utopie, car en réalité, toute son action a abouti à faire vivre cette république qui est devenue très vite une république de bourgeois dans laquelle il n'avait rien à faire.
Et pourtant, il avait réfléchi à la révolution.
Il avait réfléchi à la révolution, mais Jean Desgrenil dira peut-être mieux que moi, il y avait réfléchi dans sa nécessité.
Réfléchissez seulement sur la marche naturelle des révolutions. Dans des États constitués, comme presque tous les pays d'Europe, il y a trois puissances. Le monarque, les aristocrates et le peuple. Ou plutôt, le peuple est nul. S'il arrive une révolution dans ces pays, elle ne peut être que graduelle. Elle commence par les nobles, par le clergé, par les riches. Et le peuple les soutient lorsque son intérêt s'accorde avec le leur pour résister à la puissance dominante qui est celle du monarque. C'est ainsi que parmi vous, ce sont les parlements, les nobles, le clergé, les riches qui ont donné le branle à la révolution. Ensuite, le peuple a paru. Ils s'en sont repentis, ou du moins ils ont voulu arrêter la révolution, lorsqu'ils ont vu que le peuple pouvait recouvrer sa souveraineté. Mais ce sont eux qui l'ont commencé. Et sans leur résistance et leur faux calcul, la nation serait encore sous le joug du despotisme. D'après cette vérité historique et morale, vous pouvez juger à quel point vous devez compter sur les nations de l'Europe en général, car chez elles, loin de donner le signal de l'insurrection, les aristocrates, avertis par notre exemple même, tout aussi ennemis du peuple et de l'égalité que les nôtres, se sont ligués, comme eux, avec le gouvernement, pour retenir le peuple dans l'ignorance et dans les fers, et pour échapper à la déclaration des droits.
Robespierre, est-ce que c'est un homme complexe, à votre avis ?
Ce texte nous montre qu'en tous les cas, il est un théoricien de la révolution qu'il est en train de pratiquer. Vous savez, ce texte était destiné à combattre l'idée de la guerre. Il voulait démontrer que la guerre n'est pas le moyen, il n'y a pas d'exportation légitime de la révolution. Et que les révolutions viennent lorsque les peuples en éprouvent le besoin. Et il y a chez Robespierre non pas une théorie de la fatalité des révolutions, mais une théorie de la nécessité historique. Le texte qu'on vient de lire, que Jean Desgrenil nous a lu si superbement, nous le montre éloquemment. Je pense qu'il y a chez Robespierre une très grande complexité psychologique. Nous ne savons rien de sa vie privée parce qu'il a toujours tenu à l'extérieur du ragot tout ce qui était sa vie propre, alors que son frère était beaucoup plus prêt à se laisser aller aux confidences. Et il y a en même temps une très grande complexité de sa démarche politique parce qu'à tout instant, on le sent résonner à travers des possibilités contradictoires de conclusions et en choisir une qui va fonder ensuite sa pratique. Il est à la fois un homme d'action, mais il est surtout un homme de discours au sens où le discours est, par définition, alternative entre des conclusions diverses.
Alors vous qui êtes un ardent défenseur de Robespierre, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les mentalités changent par rapport à cet homme ?
Je ne suis pas un hagiographe de Robespierre. Si son mérite était reconnu, je serais sûrement l'un des premiers qui m'engagerait dans la voie d'une critique, de réserve, de discussion. Mais l'injustice est trop lourde, trop forte, trop insupportable. Nous ne pouvons pas, à propos de Robespierre, nous en tenir à des demi-mesures. Et moi je plaide pour que les restes de Robespierre, symboliques, puisque ces restes ne nous sont pas parvenus, son corps a été dissous par ordre des thermidoriens dans la chaux vive, qu'une représentation imagée de Robespierre soit accueillie au Panthéon.
L'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continuel à la justice. Elle est donc sociale et républicaine. La nature a mis dans l'homme le sentiment du plaisir et de la douleur qui le force à fuir les objets physiques qui lui sont nuisibles et à chercher ceux qui lui conviennent. Le chef-d'œuvre de la société serait de créer en lui, pour les choses morales, un instinct rapide qui, sans le secours tardif du raisonnement, le porta à faire le bien et éviter le mal.
Robespierre, donc, pour cette dernière Île-de-France du mois de juillet, et pour clore cet itinéraire révolutionnaire dans Paris que vous pouvez bien sûr continuer par vous-même. Merci à nos invités, merci à Jean Negroni qui, je le rappelle, a dit en direct pour nous des textes de Robespierre. Merci Claude Mazoric, je rappelle le titre de votre livre, Robespierre écrit, et c'est aux éditions Messidor. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez, depuis peu, à la conciergerie, aller voir un souvenir, une salle qui est consacrée à Robespierre. Ça a été aménagé depuis peu par la Caisse des Monuments Historiques. Voilà, merci à tous. Documentation pour cette émission, Dominique Compétissa. À la technique, Jean-Charles Aquenin et Joël Gilles. Réalisation, Brigitte Mazire.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 juillet 1989.